Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Des 364 jeunes tués au Festival Nova, la grande majorité a sa photo ici, à l'endroit même où s'élevait le chapiteau.
C'était il y a un peu plus de 6 mois. Des commandos du Hamas perpétraient un massacre dans le sud d'Israël. 1170 morts, 250 otages enlevés, dont beaucoup sont encore entre les mains du mouvement terroriste. 6 mois plus tard, les représailles israéliennes font froid dans le dos. Des milliers de victimes dans la bande de Gaza où Tsahal, l'armée israélienne, mène la traque contre le Hamas au prix de nombreuses victimes civiles. Quand l'horreur répond à l'horreur, 6 mois après, rien n'arrête le gouvernement Netanyahou, pas même les États-Unis. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos.
C'est un coup de téléphone aux allures de menace. Le président américain Joe Biden somme son homologue israélien de permettre rapidement la livraison d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, au bord de la famine, s'il souhaite bénéficier de l'aide américaine.
Depuis quelques jours, les États-Unis haussent le ton face au désastre humanitaire qui touche la bande de Gaza. L'armée israélienne traque les terroristes du Hamas et bombarde massivement le territoire, faisant de nombreuses victimes parmi les civils, enfants compris. Le pays a bénéficié dès les attentats du 7 octobre du soutien inconditionnel de son allié américain, mais le déluge de feu qui touche Gaza, où la population est menacée par une famine sans précédent, commence à fendiller ce soutien. La pression exercée par Joe Biden suffira-t-elle à stopper le désir de vengeance du gouvernement israélien qui menace de mener l'assaut final sur la ville de Rafah, où sont réfugiés plus d'1,5 million de Gazaouis? En attendant, les médiations en vue d'une trêve entre le Hamas et Israël se poursuivent, mais la réunion marathon organisée dimanche au Caire en présence de représentants du gouvernement israélien et du Hamas et de médiateurs de l'Égypte, des États-Unis et du Qatar est restée lettre morte. Les États-Unis ont notamment jugé que les dernières déclarations du Hamas n'étaient pas très encourageantes. Bonjour Pascal Brunel.
Bonjour.
Vous êtes correspondant des Échos en Israël. On parle depuis des semaines d'un cessez-le-feu à Gaza sous la pression notamment américaine. Pourquoi les deux camps ne parviennent-ils pas à faire taire les armes, au moins temporairement ?
Tout simplement parce que les deux parties ne parviennent pas à s'entendre sur le prix à payer pour un tel échange. Le Hamas exige par exemple le retrait total de l'armée israélienne, en fait la fin de la guerre, et le retour chez eux de plus d'1 million de Palestiniens qui se sont réfugiés dans le sud de l'enclave. Autant de conditions que Benjamin Netanyahou rejette, lui qui a promis d'éradiquer le Hamas. Le premier ministre israélien demande une liste précise des 133 otages détenus. Les marchandages portent aussi sur le nombre de Palestiniens détenus par Israël qui doivent être échangés contre les otages.
Que sait-on justement du sort des otages restants ?
Selon les estimations de l'armée, une trentaine seraient morts. Parmi ceux restés en vie figurent des femmes, des enfants, des personnes âgées ou malades. Une partie d'entre eux servent de bouclier humain aux dirigeants du Hamas comme Yahya Sinwar, qui se cachent dans des tunnels, si bien que l'armée israélienne ne peut pas les éliminer sans mettre en danger les otages.
Sinwar, qui est le chef du Hamas à Gaza et qui est considéré comme le cerveau de l'infiltration du 7 octobre, a noté que Tsahal a annoncé mercredi matin que 3 fils d'un autre chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, ont été tués lors d'une frappe ciblée dans le nord du pays. D'un point de vue militaire, le Hamas est vaincu, ses combattants ont été éliminés ou se cachent, ses capacités sont réduites, a affirmé récemment Benny Gantz, un des membres du cabinet de guerre israélien. Pascal, quel est le bilan de l'intervention de Tsahal à Gaza ?
Il est plutôt très contrasté après 6 mois de guerre. Les otages ne sont toujours pas libérés. Le Hamas a certes encaissé des coups extrêmement durs dans une bande de Gaza ravagée comme elle ne l'a jamais été. Selon les estimations de l'armée israélienne, 12 000 membres de l'appareil militaire du Hamas ont été tués. Le mouvement islamiste avance pour sa part un énorme bilan humain avec plus de 33 000 morts, sans distinguer les combattants de ce que les militaires appellent les victimes collatérales, en particulier les enfants. Sur le terrain, Israël n'a pas parvenu à mettre sur place un pouvoir civil alternatif avec des Palestiniens hostiles au Hamas. Bref, comme le souligne une partie des médias, Israël a remporté des batailles, mais pas encore la guerre.
La situation au Proche-Orient, les risques d'escalade régionale, il en sera encore question ce vendredi, notamment en Iran, où on célèbre la journée dite de Jérusalem, en solidarité avec les Palestiniens. Hasard du calendrier, cette journée de Jérusalem tombe au moment où sont organisées les funérailles des gardiens de la Révolution, tués dans l'attaque à Damas du consulat iranien, tués dans une frappe attribuée à Israël.
Au sud, Israël poursuit son offensive contre le Hamas, mais il cherche aussi ses ennemis hors de ses frontières. Il y a eu ce raid aérien attribué à Israël et qui a tué 6 gradés des gardiens de la révolution iranien à Damas. C'est un message envoyé à Téhéran et à ses alliés dans la région.
Oui, tout à fait. Il s'agit de forcer l'Iran à arrêter ses fournitures d'armes au Hezbollah libanais, avec desquels des affrontements quotidiens menacent à tout moment de dégénérer en guerre. La tension ne cesse de monter. Les dirigeants iraniens ont juré de se venger de l'élimination lundi dernier à Damas de 6 hauts gradés des gardiens de la Révolution lors d'un raid aérien attribué à Israël. La menace est prise très au sérieux de crainte d'attaques de missiles ou de drones suicides de la part d'Iran. L'armée israélienne a été placée en état d'alerte renforcée. Les réservistes des unités de défense aérienne ont été rappelés d'urgence, tandis que des mesures de protection renforcées ont été prises pour assurer la sécurité des représentations diplomatiques israéliennes dans le monde de crainte d'attentat.
Et le ton est monté entre les deux capitales. L'ayatollah Ali Khamenei s'est emporté dans un discours télévisé à l'occasion de la fête marquant la fin du mois du Ramadan. Le régime maléfique a fait une erreur. Il doit être puni et il sera puni. Réponse en Perse sur le réseau X du ministre israélien des Affaires étrangères. Si l'Iran mène une attaque depuis son territoire, Israël répondra et attaquera l'Iran. De quoi renforcer les craintes d'une extension du conflit qui dure depuis maintenant 6 mois. Pascal, d'ailleurs, comment les Israéliens jugent-ils l'évolution de la situation à Gaza depuis le 7 octobre ?
Selon les sondages, la population israélienne ne pavoise pas et ne crie pas victoire. Bien au contraire, elle ne voit toujours pas la fin de la guerre, la plus longue du pays. Les Israéliens préfèrent se concentrer sur l'immédiat, c'est-à-dire sur le sort des otages. Pour ce qui est de l'après-guerre, l'heure est à l'incertitude la plus totale. L'inquiétude porte aussi sur l'isolement diplomatique du pays et surtout sur la crise sans précédent avec le grand allié américain dont les critiques se font de plus en plus acerbes.
Et le week-end dernier, des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté à Tel Aviv pour réclamer le départ de Benjamin Netanyahou. Ils réclament le retour des otages, mais aussi la tenue d'élections anticipées. C'est la fin de l'union sacrée. Le gouvernement peut-il tenir ?
Effectivement, Benjamin Netanyahou est plus que jamais sur la sellette. Lui et son parti, le Likoud, sont en chute libre dans les sondages. Les manifestations exigeant sa démission et des élections anticipées, qui ne rassemblaient que très peu de monde jusqu'à la fin mars, mobilisent désormais des dizaines de milliers d'Israéliens. Pour le moment, Benjamin Netanyahou tient bon avec sa majorité de 64 députés sur 120, mais il est plus que jamais à la merci de 2 partis d'extrême droite qui exigent une opération militaire dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, alors que Joe Biden fait tout pour empêcher une telle attaque qui pourrait provoquer une catastrophe humanitaire. Le Premier ministre est également sur la corde raide à cause de 2 autres formations ultra-orthodoxes de la majorité qui ne veulent pas entendre parler d'une loi qui mettrait fin à l'exemption du service militaire dont bénéficient les jeunes hommes de cette communauté. Difficile de prédire dans ces conditions comment Benjamin Netanyahou peut survivre au pouvoir.
Et à gauche d'un gouvernement de coalition, très à droite, ça craque elle aussi. Le centriste Benny Gantz, ancien militaire très populaire en Israël, a appelé il y a une semaine à la tenue d'élections anticipées. Il est considéré comme le principal rival de Netanyahou pour le poste de Premier ministre. Le prochain scrutin législatif est prévu pour l'instant à l'automne 2026. C'est la fin de l'union sacrée en Israël. Et sur le plan international, le pays est aussi de plus en plus critiqué, y compris par les Occidentaux.
À l'étranger, le bilan est effectivement n'est pas brillant. Comme le souligne avec amertume un diplomate israélien, au début nous étions les Ukrainiens, maintenant nous passons pour les Russes. Effectivement, Israël a fait de plus en plus figure de paria. L'élan de solidarité provoqué par les massacres commis par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël ne se plus qu'un lointain souvenir. Désormais, l'État hébreu est le dos au mur. Même les Américains ne ménagent plus leurs critiques au point que certains responsables militaires israéliens redoutent que les États-Unis ralentissent leur fourniture d'armes indispensables à la poursuite des opérations militaires.
En déplacement en ce moment même en Israël, le secrétaire d'État américain Antony Blinken tente lui d'arracher un accord pour une trêve. Hier en Égypte, il mettait en garde le gouvernement israélien contre une offensive sur Rafah.
Antony Blinken en Israël fin mars. Le secrétaire d'État américain écume la région depuis plusieurs semaines. En visite à Paris en début de mois, il a aussi exhorté Tel Aviv à faire davantage pour protéger les vies innocentes à Gaza, qu'il s'agisse d'enfants palestiniens ou de travailleurs humanitaires. Une activité diplomatique intense. Bonjour Solveig Godeluc.
Bonjour.
Vous êtes correspondante des Échos à New York. Les États-Unis ne ménagent pas leurs efforts pour arriver à un cessez-le-feu en vain pour l'instant?
Oui, c'est vrai qu'ils ménagent pas leurs efforts. Ils sont inquiets depuis le début parce que la région, ils la connaissent, c'est une poudrière. On a vite fait de déraper vers un conflit très très large. Pour ces raisons, il y a pas mal d'officiels qui se sont rendus sur place, notamment le secrétaire d'État Antony Blinken, qui en est à sa sixième tournée au Moyen-Orient, qui a vu absolument tous les souverains et les dirigeants élus de la région. Il y a aussi le directeur de la CIA, Robert Burns, qui discute avec ses homologues en permanence. Là, au Caire, ils viennent de faire une nouvelle proposition de cesser le feu. Donc c'est une proposition qui permettrait d'un côté de relâcher une centaine de prisonniers palestiniens et de l'autre côté de libérer une quarantaine d'otages israéliens. Bon, ça progresse un petit peu visiblement, hein, ces solutions de cesser le feu. Il y a quand même des avancées, on ne sait pas très bien où va arriver celle-là. Puis il y a Biden qui téléphone régulièrement à Netanyahou. C'est parfois un petit peu tendu, et notamment ces derniers temps, c'était compliqué entre deux, mais c'est important qu'ils gardent le contact.
Good evening, I'm Enrique Acevedo from the White House in Washington, D.C.
For the first time, a Spanish-language media outlet spent 3 days with the president of the United States as Televisa Univision tagged along two Biden campaign stops and spent time with the president in the White House.
Oui, c'est vrai que Joe Biden a été interrogé il y a encore quelques heures hein, par la chaîne hispanophone Univision. On lui posait la question sur la conduite de la guerre en Israël et il a répondu « Je pense que ce qu'il fait est une erreur ». Il parlait de Netanyahou. « Je ne suis pas d'accord avec son approche ». C'est une critique assez vive, assez inhabituelle aussi de la part des États-Unis. Pourquoi est-ce que Washington est en train de changer de ton à l'égard d'Israël?
Parce que le vent tourne tout simplement. Parce que les États-Unis ne veulent pas être perçus comme les complices d'un carnage. Parce qu'on a aujourd'hui plus de 30 000 victimes à Gaza, et c'est principalement des enfants, et ça c'est un détail qui n'échappe pas à l'opinion publique. On a de plus en plus d'articles et de reportages là-dessus. Or, Joe Biden est quand même dans une position un peu compliquée, parce qu'il a soutenu sans réserve la contre-offensive suite au massacre commis par le Hamas, la contre-offensive d'Israël, et pendant très longtemps encore, alors que les autres pays appelaient à un cessez-le-feu, lui, il a attendu la fin mars pour ça, il a attendu une énième résolution à l'ONU pour changer la position américaine. Donc lui, il fait quand même partie de ceux qui ont tenu très longtemps du côté des faucons. Après, alors récemment, Biden a dit ma ligne rouge, il a dit ce mot de ligne rouge, c'est un assaut sur Rafah, la ville de Rafah. Et pourtant, l'allié de toujours, l'allié israélien tellement dépendant des États-Unis, n'a pas renoncé. Netanyahou a dit Rafah, il faudrait que j'attaque cette ville pour me débarrasser du Hamas. Donc le risque pour les États-Unis, pour Joe Biden, c'est de passer à la fois pour du côté des tortionnaires, hein, je dis comme ça, enfin, n'oublions pas tout de même qu'il y a eu le massacre du Hamas, mais ils peuvent passer pour les tortionnaires à l'heure actuelle. Et en plus, pour des faibles, puisqu'ils cèdent face à Netanyahou, qui fait ses quatre volontés. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont importantes pour Joe Biden, surtout à l'approche de la présidentielle de novembre prochain, où il est déjà en difficulté sur cette question de Gaza, et ça s'est vu pendant les primaires, où pas mal de démocrates, d'électeurs démocrates ont décidé de voter blanc ou de s'abstenir, et où il rencontre régulièrement, dès qu'il se déplace quelque part pour un meeting, il rencontre des gens avec des drapeaux palestiniens, et il est surnommé « Genocide Joe ». C'est quand même assez gênant pour lui.
It's all the fallout from a top dollar presidential fundraiser coming as Palestinian supporters push for a ceasefire in Gaza, blaming the war on US support for Israel and as they call the president Genocide Joe.
Hey, Fox News en a fait ses choux gras comme ici lors de cette manifestation pro-palestinienne en Californie, c'est un fief démocrate, il réclame un cessez-le-feu à Gaza, critique l'aide américaine à la guerre. Avec ce surnom terrible pour l'image de Joe Biden, l'aile gauche du parti en colère contre le président américain, le camp démocrate paraît aujourd'hui très divisé alors que Joe Biden a échoué à faire entendre raison à Netanyahou.
Oui, alors ça c'est vrai que le camp démocrate est plus divisé que le camp républicain. Le camp républicain, ils sont eux du côté plutôt des faucons, du côté de Netanyahou. Les démocrates, eux, sont nettement plus divisés. Alors, il y a une personne qui a jeté un pavé dans la mare le 15 mars, une personne importante parce que c'est Chuck Schumer qui est le leader du Sénat, donc c'est un dirigeant démocrate, un très haut représentant de l'État américain, et il se définit comme un allié toujours d'Israël, il a toujours voté pro-Israël, hein. Ça, c'est, la question ne se pose même pas. Et il a dit solennellement que Netanyahou était un obstacle à la paix et que ce dirigeant faisait plus de mal que de bien à Israël. Et il a appelé les Israéliens à choisir un autre dirigeant, une autre coalition pour les gouverner, ce qui est quand même... Bon, alors immédiatement, bien sûr, il y a eu des critiques, ingérences, etc. Enfin, ça a été très mal reçu par une partie de la population. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit, il y en a un qui dit tout haut ce qu'on pense tout bas, et puis et probablement ce que Biden pense tout bas aussi, parce que les États-Unis reprochent au fond à Netanyahou à la fois de pas soucier des victimes collatérales de son offensive. Et aussi de ne pas vouloir préparer une paix de long terme, qui est pour les États-Unis la solution à deux États. Voilà, donc ça crée des divisions dans le camp démocrate, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas oublier tout de même qu'au fond, l'amitié États-Unis-Israël, elle reste très forte, et ça, que ce soit du côté des démocrates ou des républicains, hein, dans les deux camps. Et ce n'est pas parce qu'on critique un dirigeant, en l'occurrence Netanyahou, qu'on va oublier aux États-Unis qu'Israël, c'est l'allié de toujours. Et un pays démocratique avec où il y a une vraie liberté d'expression, isolé au milieu de pays qui sont hostiles et souvent beaucoup moins démocratiques.
Oui, et certains pays ou groupes dont la volonté effectivement est de détruire Israël. Comment la guerre à Gaza est-elle d'ailleurs perçue par les Américains ?
Je reviens à Netanyahou, hein, c'est quand même le point de fixation parce qu'il n'est pas très apprécié à gauche. C'est un dirigeant qui a été beaucoup critiqué par Biden dès son arrivée au pouvoir, notamment à cause de la réforme de la justice décidée en Israël, qui a provoqué beaucoup de contestations en Israël et qui affaiblissait les institutions démocratiques. Donc Netanyahou est perçu comme un dirigeant extrémiste et il est à la tête d'une coalition qui est très radicale, très va-t-en-guerre. Donc tout ça, ça passe pas très bien, quoi. Et ça a quand même dégradé fortement la relation avec Israël jusqu'au 7 octobre. Au 7 octobre, tout a changé parce que l'allié de toujours était attaqué. Et là, Biden, je pense qu'il a exprimé ce que ressentaient la plupart des Américains. On vient à votre secours quand vous êtes vraiment en danger. C'est-à-dire qu'on peut critiquer votre dirigeant, mais on reste vos amis.
Alors, en 6 mois de guerre, Washington a mis son veto à 3 résolutions de cessez-le-feu avant de finir par s'abstenir fin mars. Le gouvernement a rappelé à plusieurs reprises le droit d'Israël à se défendre après les attentats du 7 octobre. Mais le soutien passe aussi par des livraisons d'armes. Un soutien qui fait aujourd'hui débat aux États-Unis, Solveig.
Je dirais que le débat sur les armes, les ventes d'armes à Israël et l'aide ou le don d'armes, il se limite pas aux États-Unis, hein. Mais il est plus important aux États-Unis parce que tout simplement les États-Unis ont énormément donné aux Israéliens, énormément collaboré aussi avec eux, coopéré. Depuis la création de l'État d'Israël, ils ont versé l'équivalent de 150 milliards de dollars d'aide militaire à cet État. Ils coopèrent sur le dôme de fer, sur plein de technologies. Israël leur achète énormément de jets, d'avions de chasse. Voilà, donc c'est quand même un partenaire très important. Et donc, oui, il y a des discussions importantes, il y a un débat là-dessus. La difficulté de tout ce débat, c'est que les armes, elles servent pas seulement à bombarder Gaza, et donc potentiellement à tuer des femmes, des enfants, des civils, des gens qui sont pas des militants du Hamas. Les armes, elles servent aussi, pour ce petit État isolé dont je parlais, à se défendre contre les attaques du Hezbollah et de voisins un peu hargneux, on va dire.
L'opinion américaine est en tout cas de plus en plus hostile à la guerre menée par Israël. Selon un sondage, 62% des électeurs ayant voté Biden en 2020 veulent mettre fin aux livraisons dès lors que ces armes servent à attaquer Gaza. De quoi faire aussi réfléchir la Maison-Blanche. La semaine dernière, lors d'un échange téléphonique avec le Premier ministre israélien, Joe Biden a évoqué pour la première fois la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures tangibles en matière de livraison d'aide humanitaire à Gaza. Mais le président américain a aussi envoyé un message à l'Iran. En cas de tentation d'attaque contre Israël, voilà ce qu'il a dit lors d'une conférence de presse. Comme je l'ai dit au Premier ministre Netanyahou, notre engagement pour la sécurité d'Israël face à ces menaces de l'Iran et de ses alliés est inébranlable. Je répète, inébranlable. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour protéger la sécurité d'Israël. Un message qui a sans doute été déjà bien enregistré par l'inflexible Premier ministre israélien.
C'est une première depuis le 7 octobre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza ce lundi et cependant tout le mois de Ramadan. Le texte a été adopté par 14 voix et une abstention, celle des États-Unis, qui n'ont pas utilisé leur droit de veto. Ceci exigeait également la libération de tous les otages détenus par le Hamas.
Pascal Brunel, je reviens vers vous. Comment le gouvernement accueille-t-il le changement de ton de l'administration Biden qui s'est manifesté notamment à l'ONU, comme on vient de l'entendre dans ce reportage d'Euronews?
Le durcissement du ton est d'autant plus mal vécu que Joe Biden a exprimé au début de la guerre une solidarité sans faille envers Israël. Or, depuis quelques semaines, les relations entre Benjamin Netanyahu et Joe Biden se sont envenimées. Dans un premier temps, le chef du gouvernement israélien a tenté de minimiser les tensions, mais les pressions se font telles que le Premier ministre a dû par exemple consentir à laisser passer par jour plus de 300 camions humanitaires à la demande expresse du président américain. Benjamin Netanyahu a affirmé ensuite qu'il n'avait pas renoncé à attaquer Rafah.
En attendant, la presse locale est inquiète. Le quotidien Yediot Aharonot évoque une crise extrême entre les deux pays quand Mariv dénonce la folie du Premier ministre qui prétend punir le président américain. Pascal, on l'a vu, Israël ignore superbement les votes de l'ONU, mais peut-il se passer du soutien des Américains ?
Très difficile, dans la mesure où les Américains ont organisé un véritable pont aérien qui ont permis à l'armée israélienne de disposer de toutes les armes nécessaires.
Et selon Anthony Blinken, une offensive sur Rafah ne serait pas imminente, mais la Maison-Blanche parviendra-t-elle à faire fléchir Israël ? Cela se fera, il y a une date, a affirmé lundi le Premier ministre Netanyahou. Nous achèverons l'élimination des bataillons du Hamas, y compris à Rafah. Aucune force au monde ne nous arrêtera. Il était alors en visite sur une base militaire. Pascal, qu'est-ce qui pourrait empêcher cette dernière offensive sur Rafah, au sud de la bande de Gaza ?
Seule une menace réelle des États-Unis d'interrompre ou de ralentir la fourniture d'armes pourrait éventuellement provoquer un retrait d'Israël de ce projet.
Le nord de la bande de Gaza est en partie détruite. Il faudra bien penser malgré tout à l'après. Qui pourra remplacer le Hamas qui tenait la bande de Gaza d'une main de fer ?
C'est toute la question et toute la grande inconnue. Pour l'instant, les États-Unis et l'Union européenne souhaitent que l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas reprenne le pouvoir comme il l'avait exercé avant 2007, avant que le Hamas prenne les rênes. Mais Benjamin Netanyahou refuse ce scénario. Selon lui, si Mahmoud Abbas reprend le pouvoir dans la bande de Gaza, c'est la première étape vers un État palestinien, ce dont il ne veut absolument en aucun cas entendre parler.
Merci Pascal Brunel, correspondant des Échos en Israël, et merci Solveig Godeluc, correspondante des Échos à New York. L'actualité en Israël et à Gaza, c'est à suivre sur leséchos.fr. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre La Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.
Thank you. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.